Salut à tous et bienvenue sur Archéociné. Archéociné épisode 8. Et oui, déjà. Avec nous, on a Blood. Comment ça va, Blood?
Très bien, bonjour à tous.
Et aujourd'hui, ça va chauffer dur. Pourquoi je disais que ça allait chauffer dur? Parce que aujourd'hui, Blood, on s'attaque à
la tour infernale.
Exact, la tour infernale. The Towering Inferno. Donc, film de catastrophe. On est en 1974. Le film est sorti en 1974. Il dure 2h45. Il a été réalisé par John Guillermin. Assisté d'Irwin Allen pour les séquences d'action. On a un scénario de Blood.
De Sterling Silifan, et c'est d'après donc un roman The Tower de Richard Martin Stern et The Glass Inferno de Thomas N. Scortia et Frank M. Robinson. Donc ouais, il y a deux bouquins en fait, c'est ça, non?
Exactement, ouais. Oh, c'est, ouais. Ils ont mélangé deux bouquins, mais on verra après pourquoi, plus tard. On a la photographie Fred Kohnkamp et puis aussi Joseph Biroc et Jim Freeman. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a? Musique John Williams.
Le fameux John Williams.
Ouais. John Williams donc, bah tout le monde connaît. Hein, c'est toutes les musiques de Star Wars. On a aussi certains Harry Potter, on a JFK, ouais, les Indiana Jones, Superman, Rencontre du troisième type,
toutes les Dents de la Mer,
ouais. Voilà, donc pas mal de gros succès. Et puis donc voilà, je sais plus si je l'ai dit, durée de 2h45, voilà pour la petite intro. Donc en fait, bah qu'est-ce qu'on peut dire de plus, Blood, sur le réalisateur John Guillermin?
Donc John Guillermin est mort à 89 ans en 2015. Donc il était né à Londres. Il a fait donc en 76 la réalisation de King Kong avec Jessica Lange et puis Jeff Bridges. En 78, il a mis en scène Peter Ustinov, Jane Birkin, Bette Davis, Mia Farrow et David Niven dans Mort sur le Nil. Donc, c'est avec Hercule Poirot.
Ouais.
Dans les années 80, donc, malheureusement, il tombe en disgrâce.
Ouais, c'est vrai qu'il n'y avait pas, il n'a pas réalisé grand chose.
Ouais, qui n'était pas terrible.
Ouais, puis parce que bah, il a fait un mauvais film, disons.
Et apparemment après
il a sorti China en 83, bon. C'est même encore aujourd'hui c'est considéré comme l'un des plus grands ratages de l'histoire du cinéma. Voilà, c'est pour ça que ça lui a mis un peu du plomb dans l'aile. Mais après
il a quand même fait 37 films.
Oui, mais puis après en 86, il a fait une suite à King Kong.
Voilà, oui, il a fait un King Kong. Il a fait un.
Et oui, 37 films donc du coup dans sa carrière et la Tour Infernale, bah du coup c'est son 30e.
Exact.
Allez, tiens, on va commencer à s'écouter un petit premier extrait.
Je sais. Calame m'a appelé. Bon, quels sont les dégâts?
Ça dépend de ton degré d'imagination.
Enfin quoi, bon Dieu, j'avais bien spécifié des câbles sous tube. Combien de coffres à fusibles tu as vérifié?
Combien faut-il en vérifier?
Écoute, Doug, tout de même, un petit bout de fil électrique qui vient de brûler dans un disjoncteur n'a rien de concluant.
Peut-être pas, mais après ça, je me demande si on n'aura pas d'autres surprises.
Et oui, et justement, ça va de surprise en surprise, ce film. Mais faut dire aussi que le film, hein, il date de 74, et en fait, faut savoir que le World Trade Center, les deux tours, il y en a une qui était finie en 73, je crois, et l'autre en 72. Donc le film est pile poil en raccord avec la construction des deux tours. Et je pense que c'était le fait que comme c'était deux très immenses tours, s'il y avait un incendie dans ces tours-là, je pense que ça aurait été ils n'avaient pas encore la vision, enfin, est-ce que ça serait facile pour sauver tout le monde. Donc après, qu'est-ce qu'on a peut-être des choses un petit peu à raconter avant de voir un peu les qui joue dans ce film,
Blood. Comme quoi c'est tiré de deux romans finalement, c'est une synthèse.
C'est ça.
Voilà. C'est donc ça. The Tower de Richard Martin Stern et The Glass Inferno de Thomas N. Scotia et Frank M. Robinson. Donc c'est inspiré justement apparemment de la construction du World Trade Center. Et donc pour voir ce qui pourrait arriver si malheureusement il y avait un incendie important quoi dans un gratte-ciel.
Voilà, tout à fait.
Et donc suite à au succès du superbe film L'aventure du Poséidon,
petite parenthèse, c'est vrai que là on est ces années-là, les années 70, hein, c'est vraiment le retour des films catastrophes dont fait partie L'aventure du Poséidon. Hein, c'est un peu comme le Titanic, mais c'est pas le Titanic. Mais il y a plein d'autres films après de catastrophes. Il y a eu ça, je crois que ça a commencé par Airport en 70. Après il y a eu Tremblement de terre, il y a eu Concorde 81, il y a eu 747 en péril. Oui, donc après l'aventure du Poséidon a fait un gros succès et vas-y, je te laisse continuer.
La Warner achète donc les droits pour du livre, donc The Tower, pour 390 000 dollars américains, bien sûr. Huit semaines plus tard, Irwin Allen de la 20th Century Fox donc achète ceux de The Glass Inferno pour 400 000 dollars pour éviter que les deux films n'entrent en compétition au box-office, hein, parce que peut-être que ça aurait pu faire deux films différents. Si jamais oui. Les deux sociétés de production donc s'associent pour faire un film unique et paient chacune la moitié des coûts de production.
Voilà.
Il y a donc un contrat donnant à la Fox les recettes du film aux États-Unis et à la Warner celles provenant du reste du monde.
C'est ça. C'est pour ça que la société de prod, enfin donc il y a les deux, il y a la 20th Century Fox et la Warner Bros.
Et donc le fameux scénariste Sterling Sylifan fusionne les deux romans afin de créer le scénario. Le nom de l'immeuble La Tour de Verre est une combinaison des deux titres romans, donc The Glass Tower en VO.
Voilà, c'est ça. C'est ça.
Et donc finalement, ça donnerait presque envie de lire les deux livres pour voir, connaître les deux histoires, quoi.
Oh oui, ils doivent pouvoir se trouver. Allez, on va s'écouter un autre petit truc.
Hey, il y a de la fumée au 81.
Paul, appelle la caserne. Le signal automatique d'alerte n'a peut-être pas fonctionné. Je suis au 81.
Bien, d'accord.
Eh oui, parce que l'incendie commence au 81e. Pardon, étage. Ah, ça aurait pas été marrant si ça commençait au rez-de-chaussée. Pour un film catastrophe.
Et dans ce film, ce qui me gêne, mais déjà la première alerte qu'il y a au tout début, l'autre, il va même pas voir.
Ouais, mais parce qu'ils sont sûrs de leur coup, tu sais, la tour, elle est toute neuve, tu te dis, bon, c'est pas possible, c'est un peu, on a fait ce qu'il fallait pour qu'il se passe rien.
S'il y a le capteur qui dit bon, un truc, bah, paf.
Ouais, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et donc là, on a une belle brochette d'acteurs, parce que là, ce film-là réunit énormément de grosses pointures du cinéma. Alors, vas-y, je te laisse nous les présenter.
Alors, il y a...
Juste pour le petit truc avant d'oublier, le truc qui est bizarre, c'est que après les sorties qu'il y a eu au cinéma, ça a été doublé donc par des acteurs doubleurs hein, en 75. Il y a eu un redoublage en 2000 quand c'est ressorti en DVD, donc par d'autres doubleurs. Donc,
le doublage de 75 est mille fois meilleur. Vu le nom de ceux qui font les doublages, rien que Perrette Pradier, déjà, j'adore sa voix.
Donc du coup, quand on achète le film, je pense qu'il faut regarder de quand.
Par contre, pour Fred Astaire, je vois, mince, je gâche le truc. Il y a Claude Dauphin qui fait le doublage de 75 et Roger Carrel qui fait celui de 2000.
Bon, allez, vas-y, attaque.
Alors donc, dans les acteurs, nous avons un certain Steve McQueen, donc qui joue le...
Ah, je rigole. Hein.
Donc, il joue le colonel Michael O'Halloran. Ben, j'ai mal dit son nom, pardon. Michael O'Halloran. Donc, il joue le colonel des pompiers du 5e bataillon de San Francisco, donc. Vu que le film se déroule à San Francisco, je sais plus si tu l'avais dit.
Non, je ne crois pas.
Donc Steve McQueen, donc forcément que vous avez sûrement vu déjà dans La Grande Évasion, Les Sept Mercenaires, Papillon, Bullitt, Nevada Smith, La Canonnière du Yangtze Tiang, enfin du Yangtze, pardon, Le Mans, puis dans la série aussi On de la Loi.
Ouais. Où il fait Joss Randall.
Et son dernier film, donc en 80, Le Chasseur.
Ouais, aussi.
Malheureusement, il est mort à 50 ans.
Et oui, La Tour Infernale, c'était son 24e film. Il avait 44 ans quand il l'a fait. Et il a eu un total de 27 films à son actif. Allez, je te laisse poursuivre.
Ensuite, nous avons Paul Newman, donc, qui joue Douglas, donc Doug Roberts, qui fait donc l'architecte. Donc Paul Newman qu'on a pu voir dans Butch Cassidy et le Kid, La Chatte sur un toit brûlant, Le plus sauvage d'entre nous, Le sublime L'Arnaque, Exodus, Luc la main froide, L'Arnaqueur. Bon, moi personnellement L'Arnaqueur, chacun ses goûts, je n'ai pas trop. Enfin,
ouais, tu peux. Hein.
Ouais, L'Arnaqueur, franchement, je l'ai. Ah, hein.
La boule sont dans la nature comme
ça. Ah bah oui, voilà, ouais. Je l'ai vu qu'une fois, mais donc peut-être que si un jour je le regarde à nouveau, comme je l'ai en DVD, peut-être que je pourrais retrouver. Enfin bref. Et La Couleur de l'argent. Donc lui, malheureusement, est décédé en 2008 à 83 ans. Il a fait 56 films, donc celui-ci était le 19e. Mm-hmm. Il y a William Holden, donc qui fait Jim Duncan, c'est le promoteur. Donc lui, on a pu le voir dans Boulevard du Crépuscule, Stalag 17, Le Pont de la Rivière Kwai, La Horde Sauvage, hein, j'arrive pas à me rappeler qu'il est dans La Horde Sauvage, Fedora, Breezy, lui il est mort en 81, il avait 63 ans, ouais, pas vieux, non. Faye Dunaway, donc, qui joue Suzanne Franklin, donc qui fait la fiancée de Paul Newman, donc, dans le film.
Ouais, de Doug Roberts.
Elle est, donc, journaliste. Et donc, on a pu la voir dans Bonnie and Clyde, dans Chinatown, dans Little Big Man, Les Trois Jours de Grandeur, L'Affaire Thomas Crown, donc, qui est aussi avec Steve McQueen.
Ouais. Little Big Man avec,
On la voit aussi dans un épisode de Columbo.
C'est
à Columbo. Elle est toujours en vie, donc, elle a 78 ans. Il y a Fred Astaire aussi dans le film qui joue Harry Claiborne. Il fait un petit escroc. Donc lui, on a pu le voir dans le danseur du dessus, Sur les ailes de la danse, Parade de printemps, Drôle de frimousse avec Audrey Hepburn, et Tous en scène.
Et enfin, lui, en fait, Fred Astaire, il a fait surtout des comédies musicales. Hein, et...
Oui, voilà. Oui.
Là, c'est pas une liste exhaustive de tous ses films parce qu'il en a fait un gros paquet, majoritairement de comédies musicales.
Finalement, à part dans La Tour Infernale, Fred Astaire, j'ai jamais vu de film avec lui. Comme je suis
dit musical. Et puis, il nous a quittés en 87 à 88 ans. Mm-hmm. Ensuite, on a Suzanne Blackelly
qui fait Patty Simons, donc c'est la fille de Jim Duncan, donc qui fait le fameux promoteur donc de la tour. Elle, on a pu la voir dans Le Riche et le Pauvre et Les Mains dans les Poches. Enfin, je dis on a pu la voir si on a vu ces films, bien sûr. Moi, je les ai pas vus. Elle est toujours en vie, elle a 70 ans. Ensuite, nous avons Richard Chamberlain, qui joue Roger Simons. C'est donc l'ingénieur électricien, donc, et époux infidèle, donc, de Patty. Donc, ouais. Il fait vraiment un rôle de, hein, comment je dis?
Oui. Oh, c'est, oui.
C'est un gros salaud.
C'est un connard.
C'est dès qu'on le voit, enfin, quand on sait qu'il y a le feu, puis tout, on se dit, bon, lui, il faut qu'il meure.
Ouais, donc lui, Richard Chamberlain, il est connu, hein, il a joué dans Colorado, la série Shogun, la série Les oiseaux se cachent pour mourir. Je pense que tous ceux qui sont de notre génération, ils ont vu ça gamin. Les Trois Mousquetaires, le film de 73.
Donc si c'est celui de 73, il y aura peut-être, c'est peut-être avec Mylène de Mongeau, alors.
À vérifier,
attention. Hein.
Ouais. Et puis les deux Alan Quatermain. Alan Quatermain.
85. Donc
avec... Et voilà, et il est toujours parmi nous, hein, 85 balais. On a Jennifer Jones qui joue Lisolette Muller, une riche veuve, donc, qui est courtisée par.
Par Harley, oui.
Et elle, on peut la voir dans Le Chant de Bernadette, La Folle Ingénue, Duel au Soleil, Madame Bovary. Et elle nous a quitté en 2009 à 90 ans. On a aussi O.J. Simpson.
Et oui, qui fait le chef de la sécurité.
Harry.
Carnigan. Et il a fait du football, du foot US. On a pu le voir. Pardon.
Un joueur professionnel de football américain.
Ouais. Et on a pu le voir dans Y a-t-il un flic pour sauver la reine? Y a-t-il un flic pour sauver le président? Enfin, des comédies.
Ouais, puis dans tout son procès aussi.
Ouais.
Avec la justice, il a eu des déboires. Ensuite, qui on a? On a le grand Robert Vaughn, qui joue le sénateur Gary Parker. Alors lui, Robert Vaughn, on peut le retrouver dans Les Sept Mercenaires, Colorado, Bullitt aussi, Virus, Le Pont de Remagen, Superman 3, des agents très spéciaux, et dans la série L'Agence Touriski.
Puis dans un Columbo aussi.
Ouais. Et puis il nous a quittés en 2016 à 83 ans. Et pour finir, on a...
Nous avons Robert Wagner, donc qui joue Dan Bigelow. C'est le responsable des relations publiques. Et donc lui, on a pu le voir dans Seven Sisters, dans Nord et Sud, dans La Panthère Rose. C'est lui qui fait donc le rôle principal dans Pour l'amour du risque, la fameuse série des années 80.
Ouais.
Dans Prince Vaillant, dans Airport 80 Concorde, dans Austin Powers. Et lui, il est toujours vivant, 89 ans.
Eh oui. Donc là, comme je disais tout à l'heure, du beau gratin, la crème. Donc c'est un film qui promet. Allez, on va s'écouter un petit truc après cette belle présentation d'acteur.
As-tu changé quelque chose aux spécifications établies par Dove?
Je l'ai fait en toute quiétude.
Mais nom de Dieu, pourquoi?
La raison semble évidente en ce qui vous concerne surtout.
Il y a un début d'incendie. Et si jamais il a été provoqué par tes agissements, je te garantis que tu t'en repentiras jusqu'à la fin de tes jours.
Ouais, parce que... Il déconne, hein, le père. Comment il s'appelle déjà dans le film Richard Chamberlain? Oui, Roger Simon.
On reconnaît bien la voix de Dominique Paturel, donc pour le doublage de Richard Chamberlain.
Ouais. Et puis bon, ouais, voilà, c'est ça en fait l'histoire, le sino du film. Hein, bah c'est ouais, ça se passe à San Francisco, le plus grand gratte-ciel du monde. Bah il va être inauguré. Hein. Son architecte Douglas Roberts, il voit la soirée tourner au vinaigre, hein, parce que bah justement il se passe un court-circuit qui provoque un incendie au 81e étage. Hein, c'est une tour qui fait 135 étages. Et voilà, bon, après, bah, y a les pompiers qui arrivent, etc. Et c'est pas si facile que ça d'éteindre l'incendie.
Ouais, le feu ne se laisse pas dompter comme ça, là, malheureusement.
Bah ouais. Alors toi justement, t'en as pensé quoi de ce film-là? T'as bien aimé?
Bah oui, ça, ce film-là, dans mes films catastrophes, celui-ci, il fait partie de mon top 2, si on peut dire, parce qu'il y a que, en gros, j'ai que lui, puis l'aventure du Poséidon, dans mes deux films catastrophes préférés.
Mm-hmm.
Donc, j'aime bien, ça faisait un petit bout de temps que je l'avais pas vu. Et de le revoir, je me rappelais quand même pas mal de scènes, hein, mais bon. C'est sûr qu'avec le coup des incendies qui se déclarent à droite à gauche, puis les gens qui sont plus ou moins idiots selon la situation, quand on leur dit faut rester là, faut pas monter dans l'ascenseur, puis qu'ils y vont quand même. Enfin,
ouais, mais bon, tu sais, ça fait comme le World Trade Center, hein, ceux qui se jetaient par la fenêtre, ils l'avaient pas choisi non plus, donc là c'est pareil, il y a le feu, les gens ils veulent partir, bah ils prennent ce qu'ils peuvent.
Et oui.
Mais ouais, non, mais c'est vrai que ça laisse à l'époque déjà, ça laissait à réfléchir de s'il y avait un incendie dans la tour, comment ça pourrait se passer, etc. Commencer à faire des scénarios pour sauver les gens, pour éteindre l'incendie, etc. Bon, après malheureusement, l'histoire fait que bah il y a eu réellement des incendies dans des tours, etc. Au World Trade Center, il y avait eu un incendie, je crois que c'était dans les parkings, je crois que ça avait commencé.
Aucune idée.
Il y a eu un incendie volontaire. Et ouais, moi, sinon, le film, j'ai bien aimé. Le scénario est bien fait, ça y va crescendo, plus ça va, plus on se demande comment l'incendie va prendre. Pourquoi il y a un incendie à la base, comment se déclenche l'incendie, et puis bah après il y a tout la partie sauvetage des pompiers, etc., avec les accès qui deviennent de plus en plus difficiles plus l'incendie prend de l'ampleur. Bah tu veux compléter par autre chose ou on s'écoute un petit truc?
Non, je réfléchis. Tu peux mettre un extrait déjà. Je cherche si j'ai des idées.
Allez, je te passe un petit truc.
À ce rythme, il faudra 2 heures pour que tout le monde soit descendu. Alors, je suggère que ceux d'entre nous qui ont le cœur solide et la taille mince s'engagent dans l'escalier.
135 étages, vous vous rendez compte? Tout en descente.
Voilà, ça, c'est un échange entre... attends que je me souvienne bien. Le sénateur Gary Parker... Et le promoteur Jim de... Alors, j'aime bien parce qu'en VF, il l'appelle Duncan. Jim Duncan. Donc, c'est un échange entre deux. Et puis sinon, pour continuer, allez, on avance. Qu'est-ce qu'on a un petit peu comme autre anecdote autour de ce film?
Alors donc... Irvin Allen voulait d'abord donner le rôle de l'architecte à Steve McQueen. Et donc, Steve McQueen, lui, bah, il a insisté pour obtenir celui du chef des pompiers. Et ensuite, donc, le rôle de Lisbeth Muller a d'abord été offert à Olivia de Havilland. Pardon, et c'est Jennifer Jones qui l'a obtenu. Donc, ça, comment, pourquoi, moi je ne sais pas. Mais c'est amusant quand même les anecdotes comme ça.
Ouais.
Ce fut son dernier rôle au cinéma après le suicide de sa fille. Malheureusement, en 76, elle abandonne le cinéma pour se consacrer à la psychologie en créant la Jennifer Jones Simons Foundation for Mental Health and Education. Steve McQueen, donc, qui avait encore le souvenir de Paul Newman, vedette en 56 dans Marqué par la haine, alors que lui n'était qu'un modeste figurant, ne fit aucune concession. Il exigea d'avoir le même nombre de lignes de dialogue dans le scénario et que son nom soit le plus en évidence sur l'affiche.
Ouais, parce que là, on a Steve McQueen d'un côté, Paul Newman de l'autre. Mm-hmm. Deux grands acteurs, c'est sûr qu'ils s'élèvent en plus de ça. Donc, ils voulaient chacun un peu tirer, avoir la célébrité dans le film, enfin, avoir
mais là,
le premier rôle, etc.
Apparemment, c'est plus Steve McQueen non, qui tirait plus. Paul Newman, apparemment, il était trop.
Bah non, parce que tu vois que on va le voir plus tard, on va en reparler. Et puis sinon, bah, Steve McQueen pour son rôle du chef des pompiers, pour la petite histoire, il a suivi réellement, hein, il a vraiment fait une formation de 2 semaines auprès de vrais professionnels. Et d'ailleurs, en mai 1974, il y a eu un incendie dans le studio de la Metro Goldwyn Mayer. Et McQueen fut le seul civil à se porter volontaire pour aider une centaine de pompiers qui ont participé à l'intervention. Et puis bah sinon, bah Steve McQueen, encore une fois, lui, il retrouve d'anciens partenaires de ses films précédents. Hein. On retrouve qui?
Donc, Faye Dunaway, comme on avait vu donc dans l'affaire Thomas Crown. Robert Vaughn, donc il était avec lui dans Les Sept Mercenaires et dans Bullitt. Robert Wagner, il a joué avec lui donc dans L'Homme qui aimait la guerre. Et Don Gordon dans Bullitt et Papillon.
Voilà. Allez. On va profiter d'une petite pause extraite.
Le poste de sécurité ici d'un camp. Les générateurs ont sauté. Tout le circuit est en panne. Où en sont les hommes qui doivent débloquer la sortie?
Ils sont en route.
Mm-hmm. Ils sont en route, mais est-ce qu'ils y arrivent? Sinon, bah, le film, je présume qu'il a eu pas mal de récompenses et de nominations.
Oui, alors donc je vais commencer par les récompenses. Donc, Oscar de 75, donc, meilleure photographie pour Fred J. Konnekamp, meilleur montage pour Carl Kress et Harold F. Kress, meilleure chanson pour Al Kasha et Joel Hirshhorn. Donc la chanson c'est We May Never Love Like This Again. Malheureusement. Ah oui, c'est la fille qui chante là, bah oui.
Ouais, c'est ça.
D'ailleurs, justement, comme l'autre jour j'ai vu le film, je me suis dit, tiens, j'aimerais voir justement si c'est vraiment elle qui chante. Parce que parfois il y en a qui chantent en playback et parfois ouais. Ce sont des vrais chanteurs dans des films.
Mm-hmm.
Et donc là, ce serait apparemment donc une vraie chanteuse, je pense.
Bah a priori.
Golden Globes, toujours donc de 75, donc meilleur acteur dans un second rôle pour Fred Astaire. Révélation féminine de l'année pour Suzanne Flannery. Alors, BAFTA Awards en 76, meilleur acteur dans un second rôle pour Fred Astaire. Meilleure musique de film pour John Williams. David Di Natello du meilleur film étranger en 75. Donc ça, c'est sûrement une récompense italienne, vu le nom, j'imagine.
Ouais, je présume.
Kinema Jumbo Awards en 76, donc prix du meilleur film étranger. En nomination, donc aux Oscars 75, il y avait meilleur film pour Irving Allen, meilleur second rôle masculin pour Fred Astaire, meilleure direction artistique pour William G. Kreber, Ward Preston et Raphaël Breton, enfin Breton plutôt. Meilleure musique de film pour John Williams, meilleur son pour Theodore Soderbergh et Herman Lewis.
Ouais, donc il y a eu pas mal de récompenses. Allez, bah tiens, on va voir où est-ce qu'ils en sont, tiens, dans le film.
Il nous reste combien de temps?
J'aimerais bien le savoir.
Bon Dieu, Jim, vous avez bâti cette baraque.
Tout ce que je sais, c'est qu'on ne s'en sortira pas tous.
Et ouais, donc voilà où ils en sont. Le suspense augmente. Bon, sinon, après, qu'est-ce que... On peut dire que le tournage s'est déroulé du 9 mai au 11 septembre 1974. Donc ça a été assez rapide. Hein. Le film, il a coûté 14 millions de dollars. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Que le bâtiment utilisé dans le film est en fait une série de maquettes en miniature. Bon, ça, on le voit. Hein. Seules les sections du bâtiment utilisées par les acteurs sont réelles. L'ascenseur panoramique de la Tour Infernale est l'un de ceux du Hyatt Regency Hotel à San Francisco. Donc là, c'est des vraies images. Steve McQueen, Paul Newman réalisent la plupart de leurs cascades dans leurs films. Et pas que pour ce film-là, hein, même dans la plupart de leurs films. Et c'est notamment Newman, entre autres, qui descend et monte lui-même l'escalier. On est, bon, voilà, il y a eu une explosion, c'est un escalier métallique. Tout se fracasse, c'est le vide sous ses pieds. Et c'est lui qui le descend et qui le remonte. Mais c'est balèze quand même ce qu'il a fait. Et puis, bon, juste pour un petit clin d'œil par rapport à l'aventure du Poséidon, parce que il y a son ombre qui semble planer sur la Tour Infernale. Pourquoi? Parce que en fait, dans certaines scènes, on peut entendre en fond sonore la version instrumentale de The Morning After, qui est une des chansons du film de l'aventure du Poséidon. Et on retrouve dans la Tour Infernale des acteurs ayant eu un second rôle dans l'aventure de Poséidon. Bon, il y a par exemple Sheila Allen, John Crawford, Eric Nelson, Ernie Orsatti. Allez, maintenant, on retourne dans la tour.
Ah, Mike, nous pensons que la situation dans le salon panoramique est grave. Nous avons calculé qu'ils ont 17 ou 18 minutes de sursis, et encore.
Il faudrait 3 heures pour les évacuer tous avec la bouée.
Ces gens vont mourir si on ne fait rien pour les secourir.
Il y a peut-être un dernier espoir. Monsieur Johnson est un ingénieur civil. Il va vous dire ce qu'il propose.
Et étant donné la structure de la charpente du salon panoramique, il est possible qu'elle puisse supporter l'explosion.
Quelle explosion?
Eh oui, quelle explosion, parce qu'en fait, pour libérer tout le monde, ils font péter tout le bâtiment, tout le monde meurt. Non, je déconne. sinon, après, on va faire un petit zoom sur les acteurs quand même, parce que c'est des acteurs que j'adore et on pouvait pas ne pas passer à côté de certaines choses, des petites anecdotes et tout. Bon, on va commencer par Steve McQueen, hein. Lui, en fait, il est né Terence Stephen McQueen, hein, le 24 mars 1930. Il était surnommé le roi du cool, parce que il a eu beaucoup de rôles d'anti-héros et dans les années 60, etc. Et il fut un acteur les plus populaires du box-office dans les années 60-70. On en a parlé tout à l'heure, c'est la série Au nom de la loi qui l'a révélé au grand public. Une série tournée entre 58 et 61. Ensuite, il a eu des nominations aux Oscars pour son rôle dans le film La canonnière du Yonsei en 66, et ses autres films populaires incluent Le Kid de Cincinnati en 65, L'affaire Thomas Crown en 68, Bullitt en 69, Guet-apens en 72, Papillon en 73, et ainsi que les films réunissant plusieurs stars comme Les Sept Mercenaires en 60, La Grande Évasion en 63. Grande Évasion, ouais, bon, il faudra qu'on le fasse aussi, sûr. Et puis, le film La Tour Infernale en 74. Et en 74, il devient la star de cinéma le mieux payé du monde. Bien qu'ensuite, il ne joue plus de film pendant 4 ans. Il a développé une tour persistante en 78. Il arrête la cigarette et subit un traitement antibiotique, mais son état s'améliore pas. Et le 22 décembre 79, après le tournage du film Chasseur, une biopsie révèle un mésothéliome pleural, un cancer de la plèvre incurable, voilà. Et apparemment associé à l'inhalation de poussière d'amiante. Amiante, qui dit-on, aurait-il respiré dans les combinaisons ignifugées des pilotes de course auto? Pourquoi? Parce que Steve McQueen, c'était un grand amateur de sport mécanique, et en plus de réaliser vraiment ses cascades lui-même et ses cascades en moto et en voiture, dans Bullitt, c'est lui qui conduit, il a même fait aussi dans le film Le Mans, c'est lui qui pilote, et il avait plusieurs collections privées de voitures. Et
il avait fait les 24 heures. Il avait fait les 24 heures aussi, en vrai.
Ouais, il a fait les 24 heures. Il a fait plein de courses de moto. Il a fait plein de courses de voitures. Il avait conduit sur Porsche. Il a conduit des monoplaces en moto. Il a conduit sur Triumph, sur Honda. Honda 500, je crois. Il a commencé à faire les courses en 66. Donc voilà. Et on a Paul Newman aussi, Paul Newman qui faisait aussi des courses automobiles, ça je vais en reparler tout à l'heure, mais il a tourné une soixantaine de films, hein. Il a remporté l'Oscar du meilleur acteur pour sa performance dans La couleur de l'argent en 86. Et puis bon, c'était surtout un citoyen engagé et philanthrope. Et il a joué des rôles importants dans le mouvement pour les droits civiques dans les années 60 et a soutenu nombreuses œuvres caritatives. Voilà, donc en 2007, il a annoncé lui-même la fin de sa carrière d'acteur. Et bah, il nous a quitté en 2008, comme on l'avait vu tout à l'heure. Et puis bah, lui aussi, donc il était féru de sport auto. Et il a commencé lui la compétition en 68. Bon bah voilà, on a vu que là il y avait des grands acteurs dans ce film là. Et c'est pas parce qu'il y en a beaucoup que c'est pour faire de la pub ou pour pouvoir vendre plus facilement le film, mais ils jouent tous vraiment bien. Et le film scénario catastrophe. Moi, je dirais au top. Dans la tour, on se demande comment ils vont s'en sortir. Non, jusqu'à la fin, franchement, on voit mal comment ils vont y arriver, vu que le plus ça va, plus l'incendie, plus le feu prend de l'ampleur. Hein. Et puis, le petit truc marrant, c'est qu'on revoit un peu tous les véhicules d'intervention, etc., des années 70. Ça me fait marrer. Les hélicos et tout ça. Et ouais, voilà. Enfin, franchement, ouais, c'est un bon film à voir. C'était le carton de l'année 74. Et on sait très bien que l'année 74, c'est la meilleure des années. Hein.
Oui, la numéro 1, puis la deuxième année, c'est là, 2 ans plus tard.
Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, c'était le carton de l'année 74, le blockbuster de l'année, quoi. Et franchement, il est bien. Je recommande chaudement et vivement. Et bien sûr, on va se quitter, encore une fois, mais pour mieux se retrouver la prochaine.
Nous allons dire salut l'architecte.
Ouais, salut l'architecte. Et puis avant de se quitter, hein, comme toujours, vous pouvez nous retrouver sur le blog archeociné.ddns.net, sur la chaîne YouTube, Twitter pour les annonces de sortie de chaque épisode, et puis aussi Spotify, Deezer, Podtail, et puis via l'application Podcast Addict, et puis on a un peu fait le tour. Non, on a oublié le mail, la messagerie, archeociné@gmail.com. Et voilà, sur ce, Archeociné, le podcast qui déterre les pépites du grand écran est terminé. On vous dit à bientôt. Ciao.
Et bon film. Salut.